Sud Europe, Anissa El Jabri, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale pour Ici l'Europe. Alors la course aux nominations européennes se poursuit et nous recevons aujourd'hui le vice-président d'un groupe Identité et Démocratie qui ne fait pas partie du casting. On verra pourquoi avec vous, Nicolas Bay. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Nicolas Bay, alors vous êtes député européen du Rassemblement National et à 41 ans vous avez derrière vous déjà un long engagement en politique qui commence par l'Europe. Déjà vous avez pris votre carte au Front National des Jeunes à 15 ans et c'était après avoir entendu un discours de Jean-Marie Le Pen sur le traité de Maastricht. 34 ans, porte-parole de la première campagne présidentielle de Marine Le Pen, 37 ans secrétaire général du parti, puis vice-président, une ascension qui a quand même patiné, on peut le dire, pendant cette campagne des européennes. Le numéro un de la liste, ce n'est pas vous. Les négociations pour la formation d'un groupe au Parlement européen, eh bien, c'est la patronne du parti, Marine Le Pen. Vous vous revendiquez de droite, catholique, et aujourd'hui, vous avez décroché la vice-présidence de ce tout nouveau groupe parlementaire, hein, Identité et Démocratie.
Alors, c'est le cinquième groupe au Parlement européen. Il compte 73 membres, dont 28 députés de la Ligue du Nord. Hein. La Ligue anciennement du Nord, la Ligue de Matteo Salvini. Maintenant, 22 Rassemblement National, 11 de l'AFD. Comme les Italiens, effectivement, représentent le plus gros des troupes, ils ont décroché la présidence de ce groupe avec Monsieur Zani. Est-ce que vous êtes un peu vexé, en quelque sorte? C'est un lot de consolation, cette vice-présidence?
Non, pas du tout. Vous savez, la logique des groupes parlementaires, c'est évidemment qu'ils sont dominés par les délégations les plus importantes, vous l'avez dit, 28 Italiens, 29 après le Brexit, 22 Français, 23 au lendemain du Brexit, ce qui fera de nous d'ailleurs le quatrième groupe, largement devant les Verts, une fois que le Brexit aura lieu, une force donc importante du Parlement européen. Il est logique que les Italiens qui sont plus nombreux aient la présidence de ce groupe. Vous savez, on travaille ensemble. Moi, je suis vice-président. Je suis très content et j'ai beaucoup travaillé ces deux dernières années à la constitution de cette vaste force. On nous disait longtemps qu'on serait pas en situation de constituer un groupe important. Aujourd'hui, c'est le cas. On est au travail, on sera présent dans toutes les réunions de travail pour faire un vrai travail de fond alternatif finalement à ce que propose le bloc majoritaire. Et l'élément nouveau, c'est que dans cette mandature, on a pu le PPE et les socialistes qui à eux seuls ont une majorité en siège, ce qui place les groupes de taille intermédiaire comme le nôtre dans une position arbitrale, d'autant plus que il y a beaucoup de députés ou de partis qui siègent dans d'autres groupes, techniquement, mais avec lesquels on est d'accord sur l'essentiel, sur un certain nombre de grandes orientations. Je pense aux Hongrois du Fidesz, de Viktor Orban, ou aux Polonais du Parti Droit et Justice, sur beaucoup de votes, sur les frontières, sur l'immigration, sur les quotas de migrants, sur l'asile. On a des convergences de vues, et ça nous permettra souvent de faire basculer des votes.
Alors, on va revenir sur ces convergences, mais en attendant, vous nous dites, groupe important, réussite aux élections, vous n'avez pas décroché de vice-présidence au Parlement, vous n'avez pas décroché de poste important en commission, ni présidence, ni vice-présidence. On se demande si vous n'avez pas, malgré tout, joué un peu les figurants.
Mais vous savez, il y a une logique démocratique qui fait que nous sommes aujourd'hui une force incontournable avec beaucoup de députés et qu'on sera le quatrième groupe. Et puis il y a ensuite la logique du sectarisme politique qui fait que ceux qui nous parlent de démocratie toute la journée, qui nous expliquent qu'il faut respecter l'état de droit, qui font des procès à un certain nombre de pays en état de droit, eh bien, violent allègrement toutes les règles de fonctionnement normal de l'institution. Normalement, en fonction du poids numérique de chaque groupe, il y a un certain nombre de postes de responsabilité qui sont dévolus à ces groupes. Eh bien, pour nous, ils ont fait une exception en nous empêchant...
Ils ont voté contre systématiquement.
Systématiquement, ils ont organisé la répartition entre eux, ce qui a le mérite de la clarté. Parce que, savez, on a vu en France, mais dans les autres pays aussi, le PPE, les socialistes, les libéraux, expliquer qu'ils avaient des divergences. Pendant toute la campagne, ils ont fait ça. Et puis, on s'aperçoit que ces gens-là sont d'accord immédiatement au lendemain des élections, dans le dos des nations, dans le dos des peuples. Ils se mettent d'accord non seulement sur le casting pour répartir les postes à la Commission, le Parlement, la BCE, mais aussi à l'intérieur du Parlement européen. Et en fait, on s'aperçoit surtout qu'ils sont d'accord sur les grandes orientations. Plus de fédéralisme, plus d'immigration, moins de protection économique, c'est-à-dire exactement le contraire de ce que nous défendons.
Vous parlez de sectarisme, mais à qui la faute? J'ai envie quand même de dire, oui, vous avez 73 députés, mais vous n'avez pas plus. Vous espériez finalement rallier aussi les Polonais, pourquoi pas, ultra-conservateurs, les Hongrois. Vous espériez faire une plus grande force à l'extrême droite de l'hémicycle, soyons honnêtes.
Et puis, l'extrême droite de l'hémicycle. Ensuite, on n'a jamais dit qu'on allait rallier immédiatement les Hongrois ou les Polonais. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne votera pas ensemble sur un certain nombre de sujets. Mais il faut
la grande force, c'est un échec. C'est une mini-force quand même.
un groupe de 73 députés, c'est pas une force négligeable, tout le monde en conviendra. La seule, mais vous savez, on aurait été 90 ou 100. Ils auraient eu sans doute la même attitude sectaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils veulent maintenir un système qui aujourd'hui va à l'inverse des intérêts des peuples et se construit contre la démocratie. Et ils continuent à faire leur petite cuisine pour aller plus loin dans les orientations.
Vous nous parlez de vos amis, les Hongrois du Fidesz, les Polonais du PiS. En l'occurrence, l'une d'eux, une Hongroise du Fidesz, a obtenu une vice-présidence du Parlement européen. Un Polonais du PiS a obtenu un poste de questure. Vous pouvez aussi comprendre d'une certaine manière pourquoi ils ont choisi de ne pas vous rejoindre.
Mais ils sont historiquement dans d'autres groupes politiques. Et on a d'ailleurs, on les a toujours assumés, un certain nombre de différences ou de divergences. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord sur certains aspects qui nous semblent fondamentaux, qui sont les frontières, par exemple. Mais donc, eux, ils n'ont pas été victimes de ce sectarisme. Voilà, bah, tant mieux pour eux,
et
moi je m'en réjouis.
Ils
n'ont pas soutenu
non plus.
Si, bien sûr que si. Quand vous regardez bien les votes, vous apercevrez que nos candidats pour un certain nombre de postes ont reçu des votes bien au-delà de notre propre groupe.
Mais à la fin, ça n'a pas fait la différence.
Oui, bah, ça n'a pas suffi à dégager une majorité. Mais encore une fois, nous sommes victimes d'un sectarisme. Ça ne va pas nous empêcher de continuer à progresser, de continuer à avancer et de défendre surtout notre projet alternatif.
Alors, autre groupe qui est eurosceptique, que vous connaissez bien, ECR, 62 députés. Hein, c'est celui qui est réputé quand même proche de vous. Hein. Simplement, ils ont été conquis par la prestation d'Ursula von der Leyen, l'Allemande, qui voudrait prendre la tête de la Commission européenne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous surprend ? Ils ont été conquis.
Pour l'instant, moi, je n'ai pas vu la moindre prestation de Mme von der Leyen, donc j'attends de voir ce qu'elle va dire. Mais que les Polonais du Parti Droit et Justice, pour un certain nombre de raisons qui sont propres aux intérêts qui se considèrent comme ceux de la Pologne, soient plutôt intéressés par cette candidature, moi, je peux comprendre la logique nationale qui prévaut à ce choix, mais ça ne change rien, nous, à la position qui est la nôtre. Un, on n'accepte pas le petit mercato qu'ils ont fait dans le dos des peuples et des nations. Et deux, les personnalités qui ont émergé, le socialiste Sassoli à la tête du Parlement, Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne.
C'est pas une bonne chose, c'est une Française et des femmes en plus.
Non, mais le problème, c'est pas que ce soit une femme ou une Française.
Ah,
le problème, c'est de l'orientation politique. D'accord. C'est ça la question. On peut toujours s'attacher à des questions secondaires. Moi, je préfère m'attacher à l'essentiel. La question essentielle, c'est quelle ligne politique elle va défendre. Est-ce qu'elle va défendre à la tête de la BCE uniquement la lutte contre l'inflation avec un euro trop fort pour la plupart de l'économie des autres pays européens à part l'Allemagne, ou est-ce qu'elle va servir à nos intérêts économiques qui nécessiteraient, par exemple, de mettre dans le mandat de la BCE, un peu comme l'a fait aux États-Unis, la lutte contre le chômage. Il faut en revenir aux questions de fond.
Alors, parlons du fond. Quelles sont vos priorités à vous pendant cette mandature, sous la précédente, on l'a noté, à peine 13 rapports produits. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire cette fois-ci ?
Vous savez que si vous regardez les statistiques de notre activité législative et parlementaire, vous vous rendrez compte que les députés européens du RN ont été les plus actifs dans l'hémicycle et dans les commissions. 16 000 amendements, des milliers de rapports, de résolutions. Alors simplement, dans l'attribution des rapports, eh bien, nous avons été également victimes de ce sectarisme. Qu'est-ce qu'on va faire pendant la mandature qui s'ouvre ? Eh bien, nous allons intensifier ce travail en étant beaucoup plus nombreux. Nous serons présents dans toutes les commissions, avec beaucoup de députés dans chaque commission. Nous allons donc pouvoir construire cette Europe des Nations, une nouvelle étape dans la construction de cette Europe des Nations en proposant une alternative. Il y a beaucoup de sujets fondamentaux. Il y a la question migratoire, qui est loin d'être résolue, tout le monde en convient. Est-ce qu'on protège les frontières extérieures ou est-ce qu'on continue à utiliser Frontex comme un moyen de sécuriser la traversée des migrants qui viennent du continent africain vers l'Europe ? Est-ce qu'on est capable de rétablir quand c'est nécessaire des protections aux frontières et nationales en plus de la protection des frontières extérieures ? C'est des vrais sujets. Est-ce qu'on va plus loin dans le laxisme avec Dublin 4, c'est-à-dire faciliter encore l'asile qui est devenu une filière à part entière qui a été complètement dévoyée en devenant une filière à part entière d'immigration clandestine ? Ou est-ce qu'on met le stop comme le veut Matteo Salvini ? Et puis sur l'économie, est-ce qu'on continue la concurrence déloyale en ajustant à la marge la directive travail détaché ? Ou est-ce qu'on remet en cause ce système-là qui aboutit à la préférence étrangère ?
C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que vous dites, mais nous, d'ailleurs, on va surveiller le travail avec un observatoire des députés européens français pour voir ce qu'ils votent. Mais parfois, on a eu le sentiment que précisément, votre groupe ne votait pas en fonction de ses propres idées. Typiquement sur le PNR pour mieux tracer les terroristes qui prennent l'avion, vous avez voté non. Sur le fonds de sécurisation des frontières qui vous intéresse maintenant, vous avez voté non. Sur l'encadrement des travailleurs détachés, justement, c'était l'abstention. Explication de vote, c'est incompréhensible.
Vote, on l'a faite 40 fois, alors je veux bien le faire une 41e fois. Hein.
Sur le PNR. C'est contraire à vos idées.
Non, pas du tout. Sur le PNR, en réalité, ça aboutit à faire du flicage généralisé, alors que la seule chose qui est efficace en matière de lutte contre le terrorisme, c'est le ciblage. Et vous remarquerez que tous ceux qui ont frappé la France, ils n'ont pas payé l'avion. Et donc, c'est pas ça qui est efficace. Ensuite, sur la sécurisation des frontières, nous, on est pour, mais on veut pas que ce soit la Commission européenne qui ait la main là-dessus, parce que c'est des prérogatives régaliennes des États. Donc, Frontex doit devenir en appui des nations et non pas en substitution des nations. Et le travail détaché, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié à la marge le texte, mais en réalité, ça règle pas le vrai problème, le seul vrai problème du travail détaché, c'est-à-dire le paiement des charges sociales dans le pays d'origine, ce qui aboutit à ce qu'une entreprise qui embauche un travailleur bulgare ou roumain, eh bien ça lui coûte une fois et demie moins cher que d'embaucher un travailleur français. Donc vous savez, sur tous ces sujets-là, on a non seulement une position qui est constante, qui est cohérente, et surtout on a expliqué à chaque fois nos votes.
Nouveau Parlement européen, nouvelle tête, Nicolas Bay, c'était le dernier mandat d'un de vos députés, le très célèbre, puisque c'est le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, après 35 ans passés dans l'hémicycle de Strasbourg. Retour tout de suite sur son parcours avec Clément Bonneroux.
21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen est aux portes du pouvoir. À la surprise générale, le leader du Front National se qualifie pour le second tour de l'élection présidentielle avec 16,86% des voix.
N'ayez pas peur, chers compatriotes, rentrez dans l'espérance. N'ayez pas peur de rêver, vous les petits, les sans-grades, les exclus.
Jean-Marie Le Pen est largement battu par Jacques Chirac deux semaines plus tard. Il fait à peine mieux qu'au premier tour, mais pour ce vieux routard de la vie politique française, c'est la consécration d'un engagement vieux de plus de 40 ans. Son principal cheval de bataille, la lutte contre l'immigration.
Plus de 10 millions d'étrangers originaires du tiers-monde entrés en l'espace de 35 ou 40 ans dans notre pays.
Critiqué pour ses idées, Jean-Marie Le Pen l'est aussi pour ses nombreuses provocations. Il est condamné à plusieurs reprises par la justice pour des propos tour à tour racistes, antisémite et homophobe.
Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Ces débordements oratoires finissent pourtant par se retourner contre lui. En 2015, sa fille, qui a repris les rênes du parti 4 ans plus tôt, l'appelle à quitter le Front National.
Il devrait tirer les conséquences du trouble qu'il a lui-même créé. Et peut-être arrêter ses responsabilités politiques.
Jean-Marie Le Pen est exclu du parti, mais reste président d'honneur jusqu'en 2018, au terme d'une longue bataille judiciaire qui l'oppose à sa fille.
Alors Jean-Marie Le Pen vient de quitter le Parlement européen après de nombreuses années. Vous assumez-vous pleinement son héritage ?
Vous savez qu'il y a eu des divergences qu'on a exprimées avec Jean-Marie Le Pen. Il a quitté, il a été écarté du Rassemblement national il y a maintenant 4 ans. Donc nous avons eu des vraies divergences, notamment sur un certain nombre de questions qui ont été soulevées dans votre reportage. Après, il quitte la vie parlementaire. C'est une personnalité qui a marqué la vie politique. Je crois qu'on peut aujourd'hui, quand on est un peu à l'heure du bilan, avoir un jugement à la fois nuancé et puis respectueux d'un personnage et d'un parcours quand même un peu hors norme. Si on pose la question différemment...
Il a eu un grand sentiment d'inutilité quand même au Parlement européen, c'est ce qu'il dit.
Alors, il a fait le constat lucide que moi je fais aussi au bout de 5 ans, c'est que souvent, malheureusement, le Parlement européen se comporte un peu comme chambre d'enregistrement de la Commission européenne, ça c'est vrai. Et c'est parce que il y a un déséquilibre institutionnel avec les pouvoirs considérables entre les mains de la Commission européenne, l'initiative législative exclusive, la réglementation, le contrôle, les directives.
Bon. C'est pas votre groupe qui se sent particulièrement inutile,
j'ai le sentiment de travailler et de faire des choses utiles au Parlement européen, mais ce qui est vrai, c'est que globalement, il y a un problème d'utilité de l'institution dans le fonctionnement actuel, parce que la Commission européenne détient l'essentiel des pouvoirs. Et ça, je crois qu'il a parfaitement raison. Vous savez, on peut toujours contester l'efficacité qui a été celle de Jean-Marie Le Pen au Parlement européen, mais enfin, est-ce que vous pouvez me citer un seul député européen d'un autre parti qui a marqué de manière décisive les institutions européennes pendant 4, 5 ou 6 ou 7 mandats?
Il y en a quelques-uns qui sont illustrés.
Oui, en général, les Français ignorent leur existence et découvrent leur existence quand ils quittent le Parlement européen, comme Monsieur Lamassoure ou Madame Pervenche-Berès, dont personne n'a jamais entendu parler, parce qu'ils s'étaient transformés en dociles fonctionnaires de l'Union européenne et de ses dérives.
Alors, parlons un peu de vos partenaires, la Ligue. Alors, c'est une information assez récente. En marge d'un contrat pétrolier, la Ligue de Matteo Salvini aurait sollicité un financement caché de près de 60 millions d'euros auprès d'interlocuteurs en russe. On parle déjà d'un nouvel Ibizagate, hein, ce scandale qui a touché vos amis autrichiens du FPE. L'extrême droite et votre parti, y compris accusé d'avoir des liens suspects avec la Russie de Poutine, ça fait pas un peu beaucoup ?
D'abord, c'est pas une info, c'est une infox, c'est une fake news. C'est-à-dire que ça a été totalement démenti. Il n'y a pas un élément qui corrobore ces accusations.
Il y a quelques vidéos quand même, nous pensons, comme toujours dans les deux cas.
Nous pensons qu'on doit avoir des relations sereines avec des grandes puissances, a fortiori voisines, comme la Russie. Vous avez deux visions qui s'affrontent là encore. Vous avez Emmanuel Macron.
Financièrement aidé, c'est possible d'être aidé quand on est patriote, etc.
Mais on n'est pas du tout aidé financièrement, ni par la Russie, ni par aucune autre puissance. Simplement, on veut avoir des relations apaisées. Il y a une compétition internationale politique, économique, avec ces grandes puissances-là, qui savent défendre leurs intérêts beaucoup plus que nous ne défendons les nôtres, malheureusement. Mais est-ce qu'on doit être en guerre avec les États-Unis de Donald Trump ? Est-ce qu'on doit être en guerre avec la Russie de Vladimir Poutine ? Est-ce qu'à l'intérieur de l'Union européenne, on doit être en guerre avec la Hongrie d'Orban et avec l'Italie de Salvini ? Je ne le crois pas. Je crois que c'est pas conforme aux intérêts de la France.
L'Italie avait enregistré l'arrivée de, on parlait du chapitre migratoire qui vous intéresse, 180 000 migrants en 2016, au pic de la crise. Donc, c'est tombé à 23 000 sous gouvernement socialiste en 2018, 3 000 depuis le 1er janvier 2019. Mais Matteo Salvini est le ministre de l'Intérieur. Il repousse systématiquement en mer les embarcations, et en particulier celles des ONG. Il y a 426 personnes qui sont mortes en Méditerranée. Le pourcentage est plus grand. Est-ce que c'est une bonne politique ?
Non, ça n'est pas exact. Il y a moins de morts en Méditerranée.
En rapport.
Et il y a évidemment beaucoup de moins d'arrivées sur les côtes italiennes. À peu près 100% de diminution depuis que Matteo Salvini est ministre de l'Intérieur. Donc c'est un vrai succès. La réalité, c'est que plus vous laissez venir les immigrés clandestins, plus vous alimentez les mafias et les passeurs, souvent c'est vrai avec la complicité des ONG, et plus vous avez de morts en Méditerranée. Plus vous faites preuve de fermeté, plus vous faites un travail en amont, y compris d'ailleurs, et ce sera nécessaire, de développement des infrastructures en Afrique, qui est le préalable au développement économique de l'Afrique, plus vous éviterez que des gens franchissent la Méditerranée. Ils viennent essentiellement pour des raisons économiques, tout le monde le sait, l'immense majorité d'entre eux ne fuient pas la guerre, mais le fait que le laxisme migratoire caractérise l'Union européenne, Juncker, Macron, Merkel, qui ont défendu cette ligne-là contre, d'ailleurs, une bonne partie des autres pays européens, eh bien, a abouti à ces drames en Méditerranée. Donc, ceux qui se promènent avec la charité en bandoulière, c'est ceux qui sont responsables de la Méditerranée transformée en cimetière.
Sauf que le président socialiste du Parlement européen, que vous critiquiez tout à l'heure, a dit que c'était une de ses toutes premières priorités, hein, réformer ce fameux règlement de Dublin qui est si contesté. Ce règlement qui fait que le premier pays d'arrivée doit enregistrer la demande d'asile. L'Italie est évidemment contre. Vos amis autrichiens, pas exactement. Vous en pensez quoi, vous ?
Nous pensons que ça n'est pas la solution d'aller encore plus loin dans le laxisme. Le règlement Dublin 4, c'est un texte qui a été préparé par la Commission européenne, qui a été adopté avec quelques ajustements par le Parlement européen, qui, une fois de plus, s'est comporté en chambre d'enregistrement, et il est bloqué au Conseil. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État et de gouvernement qui, courageusement, ne veulent pas de ce texte. Pourquoi ? Parce que ce texte, il aboutit à ce que celui qui arrive clandestinement dans un pays européen, eh bien, il fait une demande d'asile, automatiquement, il va avoir un certain nombre d'aides et d'avantages, mais surtout, il va pouvoir choisir parmi quatre pays, une liste de quatre pays dans lesquels il pourra s'installer le temps que sa demande d'asile soit étudiée. Et évidemment, il va aller au plus offrant, là où les prestations et les avantages sociaux sont les plus importants, et là où il a le moins de chances d'être expulsé une fois que sa demande d'asile aura été rejetée. Il y a à peu près 70% des demandes d'asile qui sont rejetées, alors même que l'asile est souvent octroyé de manière quand même très, très, très leste, très laxiste. Donc, on voit qu'on va alimenter à nouveau les filières d'immigration.
Et donc on reste sur ce mauvais règlement ?
Non, il faut non seulement ne pas aller dans la voie de ce règlement Dublin 4, mais il faut remettre en cause l'ensemble de l'édifice actuel qui a dénaturé profondément le droit d'asile, qui normalement est réservé à ceux qui sont persécutés à titre personnel dans leur pays d'origine en raison de leur opinion philosophique, politique ou religieuse. Ça, c'est le droit d'asile. Donc ceux qui viennent parce qu'ils fuient une situation économique ou climatique difficile, eh bien, ils ne sont pas éligibles au droit d'asile. Et le fait de dire « venez, vous serez accueillis », comme l'a fait Mme Merkel, qui a fait venir 1 500 000 migrants, eh bien, ça crée une déstabilisation très profonde, des troubles sur notre identité, notre sécurité et aussi sur notre économie, parce qu'un pays comme la France, 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, et pas en situation d'accueillir cette immigration de masse.
Merci Nicolas Bay d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis.
C'est la fin de cette émission. L'actualité continue sur RFI et France 24.